des nouveaux membres de 2018. Et aujourd'hui, c'est avec joie qu'on va entendre quelques mots de témoignages d'un couple qui est en train de devenir rapidement des bien-aimés, et Troy et Laurie Lee Wiesner.
C'est vous.
Oui, c'est vous.
Bonjour. Donc, Marc nous a demandé de raconter un peu notre histoire, d'où nous venons et toutes ces choses-là. Donc, moi, comme vous avez entendu l'histoire de ma mère il y a quelques semaines ou même moi maintenant, vous savez que moi, je suis née en Afrique, en Côte d'Ivoire, et j'ai passé les premiers 12 ans là, avec une enfance assez spéciale comme enfant de missionnaire. Très intéressant, une enfance que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé l'Afrique. Je suis allée à l'école pensionnaire pendant les premiers 6 ans de l'école primaire. C'était intéressant aussi. Et à l'âge de 12 ans, quand mes parents ont déménagé au Québec pour servir le Seigneur, moi, je suis déménagée avec eux. Et j'ai dit, je vais dire que je rentre à la maison, mais jamais chez moi, parce que chez moi, c'est l'Afrique. Petit à petit, le Seigneur a changé mon cœur. J'ai passé le... Mais écoutez, c'est pas tout à fait terminé, parce que pendant mon adolescence, j'ai... Je trouvais ça assez difficile, vivre à Québec. Et quand j'ai quitté le Québec à 19 ans pour aller à l'école biblique, encore là, juste reculer un petit peu, j'ai connu le Seigneur comme petit enfant, à côté du genou de ma mère. C'était comme ça que j'ai connu le Seigneur. Et je n'ai jamais vraiment passé par une période de rébellion. C'était... J'avais certains doutes, certaines choses qu'il fallait que je comprenne, mais je ne me suis jamais révoltée contre le Seigneur. Et à l'âge de 19 ans, quand j'ai quitté le cégep pour aller à l'école biblique, j'ai dit au Seigneur que j'irai n'importe où dans le monde, mais pas retourner au Québec. En tout cas, veux-tu comme jusqu'à là?
OK, good.
Premiers
20 ans. OK, je vais essayer de faire un court résumé. Donc, pour ma part, je suis né en Saskatchewan. Et puis, après 2 ans, mon père était dans la gendarmerie royale du Canada. Mais son cœur était vraiment à la ferme. Donc, il a acheté une ferme quand j'avais l'âge de 12 ans. Ou 2 ans. Wow. Et puis, on a déménagé là. Au Manitoba. Donc, commencé en Saskatchewan, puis j'ai grandi au Manitoba. C'était vraiment intéressant, juste un petit parenthèse, si on veut dire. Mon père était baptiste, et c'est lui qui a arrêté la voiture dans laquelle ma mère était, parce que son père avait une lumière en arrière de la char qui était, ne fonctionnait pas. Et c'était dans la nuit, donc il avait son lampe de poche et il a vérifié dans la voiture, il a spoté ma mère. Et juste une demi-heure plus tard, lui, il a arrêté dans un café pour juste prendre un café quelque part. Et ma mère était là avec ses parents. Et donc, ils l'ont invité de venir s'asseoir avec eux. Et puis, anyway, ça a déclenché toute une affaire. Mais ma mère venait d'un petit coin en Saskatchewan qui était francophone. Donc, moi, j'ai grandi avec la tourtière, avec toutes sortes de choses. J'ai entendu le français. Le nom de famille était Cossette. Et je pense que ça va jouer un rôle un peu plus tard dans l'histoire. Donc, je vais garder ça un peu. Mais j'avais le privilège de... juste un autre petit détail. Ma mère a accepté le Seigneur pendant le voyage de noces de mes parents. Parce que mon père voulait vraiment que ma mère soit chrétienne. Mon père était chrétien. Et donc, et lui, il a amené ma mère à une campagne d'évangélisation, et c'est là où elle a accepté le Seigneur. Donc, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et puis, donc j'ai grandi à la ferme, j'avais une adolescence assez normale, au Manitoba, dans un petit coin très, très, qu'est-ce qu'on dit, campagnant ou campagnard. Et puis, à l'âge de 16-17 ans, quelque chose d'assez dramatique est arrivé à ma vie. Donc, deux choses. Premièrement, j'ai pris la décision de me faire baptiser. Et à ce moment-là, il y a toute une histoire avec ça, mais j'ai pris une vraie décision de suivre le Seigneur pour moi-même. Et quelques mois plus tard, pendant une fin de semaine de mission, où on parlait beaucoup des missionnaires et toutes sortes de choses, le pasteur, le dimanche, a prêché un message sur le passage en Ésaïe chapitre 6. Où on parlait, il y a la vision d'Ésaïe au ciel, où il a entendu une conversation entre Dieu, puis les trois personnes, qui posaient la question, qui allait pour nous? Et c'est comme Dieu m'a parlé direct dans mon cœur, et j'ai reçu l'appel dans le ministère à ce moment-là. Donc, quelques mois plus tard, j'ai commencé mes études au Collège biblique en Saskatchewan, à Regina, donc le collège de l'Alliance chrétienne missionnaire. Oh, et dans mon troisième année, c'est là où j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui étudiait au Collège biblique en même temps. Donc, c'est ça.
Donc, une des premières conversations qu'on a eues, c'est, moi j'ai dit, qu'est-ce que tu penses d'aller en mission? J'étais sérieuse.
Qu'est-ce que tu penses des pensionnaires?
Oui, qu'est-ce que tu penses envoyer tes enfants dans une école pensionnaire? Encore là. C'est là qu'on s'est rencontrés, on s'est fréquentés pendant 3 ans, un an à Regina. Après ça, moi j'ai déménagé à Toronto pour faire mes études à l'Université de Toronto en sociologie. Et Troy est allé dans le coin aussi pour faire un stage dans une église. Et finalement, il est resté là à cause de moi, probablement. Et il a travaillé un peu pour payer les dettes. Et dans tout ce temps-là, on s'est mariés. Et pendant les premiers 5 ans de notre mariage, on a chacun fait compris notre tour à aller à l'école. Donc, on est retourné à Regina pour qu'il finisse ses études au séminaire. Et on est retourné en Ontario où il travaillait comme pasteur de jeunesse. Et moi, je suis allée faire ma maîtrise en travail social à ce temps-là. Mais encore là, j'étais un peu. J'ai dit que je ne me suis jamais révoltée, mais un peu orgueilleux aussi. Parce que quand Troy a commencé comme Seigneur, je ne retournerai pas au Québec. Et quand Troy a commencé comme pasteur, j'ai dit, c'est lui que l'Église a engagé, pas moi. Donc, moi, je ne suis pas une femme de pasteur. Je suis comme... Mais après un mois, je me suis rendu compte que si je voulais voir mon mari de temps en temps, il fallait que j'embarque un peu dans le ministère avec lui, sinon je serais laissée à la maison toujours toute seule. Donc, je suis allée une soirée de jeunesse et dans juste la période de cette soirée, le Seigneur m'a fait complètement tomber en amour avec ces jeunes-là. Et on a passé 5 ans en ministère avec les jeunes en Ontario, formidable, avec des jeunes assez durs et des situations qui nous dépassaient tellement. On racontait un peu les histoires hier soir avec Michel. Le Seigneur nous a gardés parce qu'on était vraiment jeunes et naïfs, mais quand même, le Seigneur nous a protégés. Pas de plan de protection. Oh, yeah, plan de protéger. En tout cas. Et là... Je vais laisser Troy raconter l'histoire, comment on est revenu au Québec.
Donc, c'était, je pense, pendant notre quatrième année du ministère dans le coin de Toronto, qu'on a décidé de prendre un petit voyage, peut-être de faire du ski ou quelque chose à Québec. Et c'était là où Anne puis Jess étaient pasteurs à l'époque, à Lévis. Et donc, on a assisté au culte le dimanche. À l'époque, je ne comprenais aucun mot de français. C'est comme quelqu'un m'a salué à la porte et j'ai juste comme... Je n'avais aucune idée de ce qu'il disait. Donc, moi, pendant le culte, j'ai juste, you know, j'essaie de faire quelque chose pour you know, passer le temps. Donc, j'ai regardé un petit peu partout et là, là. Et tout d'un coup, j'ai passé un moment dans la présence de Dieu où il m'a invité. Mais premièrement, il m'a monté tous les jeunes qui étaient dans la salle et il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt à laisser tout ce que tu fais dans le coin de Toronto et de venir au Québec et aider les églises pour le ministère de jeunesse? Et j'ai dit non. Et ça a commencé une bataille entre moi et le Seigneur pour les prochains 6 mois. Et il y a toute une histoire qui va avec cette résistance, je vais dire. Je ne sais pas si j'ai le temps de le dire là. OK, mais... OK, au Manitoba, on a l'opportunité de prendre un cours de français, you know, à l'école secondaire. Et j'ai commencé en secondaire 1. Et avec chaque année, pour quelque raison, mes notes baissaient dans mon cours de français. Et, rendu à secondaire, je pense, 4, j'ai reçu 37% comme note finale. Et mon prof a appelé ma mère et dit, s'il promet de ne jamais plus prendre un cours de français, je vais lui donner, you know, 51% afin de lui donner, you know, son cours de français. Donc, quand Dieu m'a appelé, tous ces pensées sont revenues à mon esprit. Et j'ai dit, ben, Seigneur, je ne peux pas parler le français. Je ne sais pas si je peux même parler le français aujourd'hui, mais en tout cas. Finalement, après 6 mois, il y avait un moment et j'ai simplement dit, OK, Seigneur, mon avenir est entre tes mains. Si tu veux que, you know, que je sois au Québec, j'accepte. Et donc, ça fait 20 ans, en juin, qu'on était au Québec. On a commencé dans la région de Québec et on a déménagé ici à Montréal le mois de septembre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux
dire? Juste évidemment que le Seigneur a changé mon cœur aussi pour revenir ici. Oui. Yeah. Entre-temps, on a eu 4 enfants et on continue à servir le Seigneur. C'est ça.
Merci à vous deux et bienvenue. Et il y a aussi beaucoup qui ne nous ont pas encore dit par rapport à comment le Seigneur les utilise, les appelle, les motive en ce moment dans son travail. Mais on va... faut apprendre à les connaître. Et on va apprendre à les connaître. C'est merveilleux. Alors, on va maintenant... en arrivé à l'histoire de Noé, on avait lu le texte tantôt. Vous pouvez ouvrir, ceux qui ont leur Bible, à Genèse chapitre 9. Mais vous savez, moi j'aime l'histoire, j'aime les histoires où à la fin, il y a un nouveau départ. Des histoires où il y a un joyeux recommencement après qu'une situation désastreuse a été vaincue. Des histoires comme ça ou des films comme ça, ça me remplit toujours d'espérance. Espérance pour le monde, mais espérance aussi pour ma propre vie. Alors, j'imagine que certains au moins ont vu déjà le film « La liste de Schindler ». qui est sorti en 93, ça fait longtemps, mais qui est encore un film très célèbre, un grand classique. Et ce film-là raconte comment plusieurs centaines de Juifs européens qui étaient destinés à l'extermination par les nazis, ils ont été sauvés par un industriel allemand compatissant. Puis lui, ce qu'il a fait, ce monsieur Schindler, il a monté une usine qui était très profitable à l'effort de guerre allemand, mais qui, en fait, dont la raison d'être réelle, c'était d'employer ces Juifs-là pour leur sauver la vie. Et c'est ce qui est arrivé. Après plusieurs années d'horreur, et il faut dire que c'est un film très pénible à regarder à cause des horreurs qui se passent dans cette guerre-là. Mais finalement, les nazis sont vaincus et puis la guerre se termine. Et à la fin du film, il y a les conquérants qui arrivent et il y a un soldat russe qui vient à la rencontre de ces Juifs. Et il lui demande, dans une scène assez poignante, « Dites-nous, où est-ce qu'on devrait aller? » Alors, le soldat, il répond, « Ben, n'allez pas vers l'Est, je viens de là-bas, puis ils vous détestent là-bas. Puis, je pense que dans l'Ouest, c'est pas mieux, ils vont vous persécuter dans l'Ouest. » Puis là, il se gratte le menton, puis il dit, « Oh, mais je crois que je vois un village là-bas. » Il pointe vers le sud. Puis là, la musique joyeuse et encourageante commence. Puis là, tous ces Juifs-là se mettent à marcher dans le champ où ils sont et ils marchent vers le sud. Puis avec la musique, c'est une marche joyeuse, pleine d'espérance, une marche de nouveau départ. Et en fait, ça symbolise la création de l'État d'Israël qui a été créé en 1948. Et de fait, plusieurs des Juifs d'Europe qui étaient persécutés, eh bien, ils ont trouvé refuge là-bas. Ils ont pu rebâtir leur vie et même bâtir un nouveau pays. Et ce matin, nous allons justement voir une situation semblable, un nouveau départ où il y a espérance et où Dieu va bâtir un nouveau monde. La dernière fois, on a vu que quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a établi une alliance avec lui et sa famille. Et on a vu que c'était une alliance unidirectionnelle. C'est Dieu qui fait des promesses. On a vu que souvent les alliances, c'est bidirectionnel, c'est conditionnel à des conditions qui doivent être remplis des deux côtés. Mais avec Noé, c'est juste unilatéral. Dieu promet la bénédiction. Et il donne l'arc-en-ciel qui devient le mémorial, le symbole de cette bienveillance inconditionnelle et permanente. On a vu aussi, par contre, que ce n'était pas la dernière alliance. Chaque alliance que Dieu crée dans la Bible bâtit sur les précédentes. Et Dieu est en train de préparer une alliance finale. Celle qu'on vient de célébrer à Pâques, et pour ceux qui sont grecs, je crois qu'ils célèbrent ça aujourd'hui, mais c'est l'alliance avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, le texte qu'on a lu tantôt, ce n'est pas des conditions que Dieu met sur les humains pour que lui respecte ses promesses dans l'alliance avec Noé. C'est plutôt un contexte de la nouvelle situation que Dieu va mettre en place sur la terre pour aider les humains qui ont beaucoup de misère, les humains à mieux vivre sur la terre. Malheureusement, on va découvrir que malgré cette bienveillance de Dieu, les humains vont s'éloigner à nouveau de Dieu. Et ils vont choisir l'indépendance par rapport à Dieu. Et les mêmes détériorations qui avaient mené au déluge vont se remettre malheureusement en mouvement. Mais ça sera pour une autre fois. Pour le moment, on voit la grâce de Dieu qui revient à la charge encore une fois dans ce texte-là. Dieu est à l'œuvre. Dieu vient vers l'homme, l'homme qui est séparé de lui, puis on voit le cœur de grâce de Dieu qui est en action. Dieu aime ça, revenir à la charge dans nos vies pour sauver les humains tombés dans le gouffre par leurs propres erreurs, par leurs propres égarements. Puis dans ce texte, t'encourager à placer ta confiance dans ce Dieu des nouveaux départs. Dieu veut rebâtir ta vie avec toi sur des nouvelles bases, des bases plus solides. Dès aujourd'hui, Dieu, il veut te donner un nouveau départ avec lui. Tu as juste à lui ouvrir la porte. C'est ça la bonne nouvelle. Et je dis ça à tout le monde, où que tu en es dans ta relation avec Dieu, peut-être que tu es un chrétien depuis longtemps, ça s'applique à toi aussi. Tu peux avoir un nouveau départ dès aujourd'hui avec Dieu en Jésus-Christ, parce que ce Dieu-là, c'est le Dieu des nouveaux départs. Et justement, on va voir dans ce texte, Dieu promet et donne un nouveau départ. Ensuite, il valorise les animaux, donc ça va au-delà des humains. Troisièmement, Dieu précise le focus. Et quatrièmement, il donne un indice du salut qui vient. Alors, écoutez, on va relire le texte. Corinne nous l'a bien lu, mais des fois, ça nous prend deux fois pour bien l'entendre. Alors, j'ai besoin d'aide d'un autre lecteur. Est-ce que quelqu'un aimerait lire avec moi? Il y a deux diapos. Un volontaire? Merci. OK. Peut-être que tu peux lire le premier paragraphe si tu arrives à le voir. Dieu prend quatre initiatives ici avant d'établir son alliance pour expliquer le nouveau contexte à Noé, le nouveau départ qu'il veut donner à l'humanité. Alors, la première chose qu'il fait, c'est au verset 1, il est dit que Dieu bénit Noé et ses fils. Et c'est presque toute cette partie, c'est presque les mêmes paroles que Dieu a données aux premiers humains, c'est-à-dire Adam et sa femme dans le premier chapitre. Hein? Il leur dit, reproduisez-vous, multipliez-vous, faites des familles, pullulez, installez-vous dans le monde, faites des familles, cultivez la terre. Ce sont des paroles encourageantes, ce sont des paroles joyeuses et pro-humaines. Dieu nous a créés pour profiter de la vie, profiter de la terre, de l'amour et de la famille. Dieu nous a créés pour être heureux. Et ce verbe, Dieu bénit, en hébreu, c'est le verbe Barak. Pas Barak Obama, mais bien que peut-être c'est un prénom hébreu, je ne sais pas. Mais Barak, en grec, veut dire bénir, puis c'est très riche dans la langue hébraïque, la bénédiction de Dieu. C'est comme une pluie du printemps qui descend sur un champ ensemencé pour faire pousser la vie. Dieu bénit. Et il répète les commandements de la vie. Allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Et c'est un recommencement de la création du monde. On peut dire que dans un sens, Noé, c'est comme un nouvel Adam. Mais Noé, on va voir qu'il n'est pas transformé suffisamment pour faire revenir la création dont il est l'intendant dans le droit chemin. On va voir que c'est Jésus qui va initier cette transformation totale. Et le Nouveau Testament va appeler Jésus le vrai nouvel Adam. Frères et sœurs, j'aimerais que vous admiriez avec moi. Moi, je suis en admiration devant le cœur de Dieu. Dieu aime créer, il aime bâtir, mais il aime ça recréer, il aime ça rebâtir, il aime ça réparer les choses brisées, il aime ça relancer les projets qui sont qui n'avance plus. Il aime donner une deuxième chance. Moi, je suis en admiration, je suis en reconnaissance devant ce Dieu, et je vous invite à l'être avec moi ce matin. Quand les choses ne tournent pas rond, dans une situation, Dieu aime venir pour amener une réparation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission Les anges de la rénovation. Dieu est l'ange de la rénovation par excellence. Il veut rénover ta vie. Et la Bible en parle souvent de cet aspect de l'Évangile. Hein? Il veut faire de toi une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, quelqu'un devient chrétien, il est une nouvelle créature. C'est ce qu'on a entendu un petit peu dans l'histoire de Laurelie, dans l'histoire de Troy. Ils ont cette relation avec Dieu depuis qu'ils l'ont reçu dans leur vie et ils sont une autre genre d'être humain. Ils parlent avec Dieu et Dieu parle avec eux. Et c'est la même chose pour chacun qui reçoit Christ dans ta vie. Et tu peux, toi aussi, recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux devenir une nouvelle créature. Et, amen, oui. Et vous savez, si ça fait longtemps, vous allez me dire, ça fait longtemps, j'ai prié, j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie. Ben oui, tu peux vivre la nouvelle création, même aujourd'hui. Et même chaque matin, tu peux te lever et dire à Dieu, « Dieu, merci pour ce nouveau jour que tu me donnes. » Tu vas créer de quoi de nouveau. Avec Dieu, il y a toujours de quoi de nouveau. Chaque jour, il y a du nouveau et ça donne la joie. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Peut-être que les circonstances vont être pareilles, mais Dieu va te donner une nouvelle perspective, une nouvelle espérance face à un problème. Dieu crée toujours un jour nouveau. Et c'est pour ça que le psalmiste, il dit, « Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour moi un sujet de joie. » Amen. Amen. Ça me rappelle d'un chant, en fait, pas le chant, parce que ce psaume a été mis en chant, mais il y a un autre chant qu'on chantait dans le temps. Et les paroles, on dirait, sont niaiseuses. Mais moi, j'aime ça, puis je continue à le chanter, mais je ne vous le chanterai pas parce que ma femme me l'a interdit. Mais je vais vous lire les paroles. Je vais vous lire les paroles dans le rythme, puis vous allez voir que c'est... Oui, ce que femme veut. En passant, ma femme, c'est elle. Je pointe le laser. Mais c'est par grâce que Cheryl veut vous épargner, oui. Alors, les paroles, c'est « Dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je marche dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur la terre et jusqu'au samedi soir. Oui, nous marchons tout joyeux. Est-ce que je suis le seul qui connaît ce chant? Mais vous voyez l'idée que la vie de l'enfant de Dieu est une vie de joie parce qu'on a un Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles. C'est vrai qu'il y a des moments où on sent que Dieu est absent, on sent qu'il est silencieux, mais il est toujours là. Il est le Dieu qui nous donne chaque jour un jour nouveau. Il faut apprendre à observer, à regarder, à écouter. Mon deuxième point, qui est une autre initiative de Dieu, Dieu, étonnamment peut-être, pour plusieurs d'entre nous, il valorise les animaux. Oui, dans plusieurs passages de la Bible, et celui-ci aussi, porte une attention un peu curieuse et intéressante aux animaux. On a déjà vu que les animaux sont nos compagnons sur la planète Terre. Dans le récit de création qu'on a déjà étudié, on est créé avec eux. Et on est béni ensemble avec eux. Ils sont les autres résidents du Jardin d'Éden. C'est un titre que j'ai volé à un ami à moi qui s'appelle Michael Gilmour, qui est chrétien, qui écrit un livre qui s'appelle « Les autres résidents d'Éden ». Puis ça, c'est un livre où lui, mais c'est qu'il est, en tant que chrétien, là, et pour des motifs chrétiens, il est devenu un défenseur des droits des animaux et en plus un végétarien. On peut se demander pourquoi. Parce qu'on a souvent l'impression que dans la Bible, les animaux ont le mauvais rôle, le mauvais bout du bâton. Et c'est vrai que souvent, la Bible va élever la dignité des êtres humains en les comparant aux animaux. Et même Jésus a dit ça. Jésus a dit ça à plusieurs reprises. Il dit, « Comparez-vous aux moineaux. » Mais Dieu dit, « Mais voyez comment je m'occupe d'eux. » À plus forte raison, toi, un être humain, parce que tu es image de Dieu. Donc, Dieu ne dévalorise pas les animaux. Dieu aime les animaux, mais il dit, mais toi, je t'ai donné la fonction spéciale d'image de Dieu. À plus forte raison, je vais m'occuper de toi, je vais te valoriser. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les animaux, qui n'a pas une relation de bonté avec eux, qui n'a pas de plaisir en eux. Dans le texte qu'on a lu avec Noé, on a vu que et Dieu met une genre d'attente presque morale sur les animaux. Et en tout cas, il dit au verset 5, si vous voyez le texte, Dieu dit à Noé et ses fils, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal. » Donc, la punition pour ceux qui commettent le meurtre est appliquée non seulement aux assassins humains, mais aux animaux. Puis, ce n'est pas le seul passage qui est comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'histoire de Jonas, le prophète Jonas. Mais il y a une scène dans cette histoire-là. Bien, premièrement, il y a le gros poisson. Il y a le gros poisson qui est comme le porte-parole de Dieu dans la vie de Jonas pour le ramener à Dieu. Mais là, quand Jonas il accepte d'aller à Ninive, il prêche le jugement. Puis là, les Ninivites se repentent. Mais on remarque que les animaux se repentent avec les humains. C'est très bizarre. Relisez le chapitre 3. Les animaux se repentent avec les humains, et quand Dieu finit par épargner la ville et exprime sa joie à Jonas, Jonas qui aurait bien aimé que Dieu les punisse parce qu'il haïssait, mais Dieu dit, mais non, regarde, moi j'ai compassion de ces humains-là et de ces animaux-là. Très intéressant. Pensons-y un petit peu. Je confesse que je ne suis pas un végétarien, ou pas encore. Je n'ai pas encore été convaincu par Sarah, qui est au fond là-bas, qui m'a parlé de cette façon de vivre. Elle n'a pas essayé très fort encore. Peut-être que ça va être possible qu'elle me convainque. De fait, on voit que nous avons, de la part de Dieu, une permission de manger la chair des animaux depuis Noé, et on voit que les premiers chrétiens ont compris qu'ils pouvaient continuer. Donc, on est dans cette tradition-là que manger de la viande des animaux, c'est permis, mais ça ne veut pas dire que c'est un encouragement absolu. C'est plutôt une permission qui est donnée, et c'est sûr que on est heureux d'en profiter. Mais je pense aujourd'hui, quand même, il faut qu'on soit sensible avec la population de la Terre qui augmente, avec les nouvelles découvertes sur le corps humain, la nutrition. On devrait tous manger moins de viande, surtout moins de viande rouge, qui est plus grasse, qui est plus apte à être contaminée par les produits chimiques. Et elle est surtout plus coûteuse à produire au niveau comme main-d'œuvre au niveau énergie et espace sur la terre. Ça coûte cher aussi, oui, pour le consommateur. Dans les Écritures, l'image qu'on a du plan originel, c'est que les animaux étaient en harmonie avec les humains. Et l'image qu'Ésaïe nous donne de la fin des temps du royaume à venir, les animaux seront présents et en sécurité. C'est des images, c'est des tableaux qui nous font réfléchir. Mais, disons, des points d'application peut-être simples, je crois qu'on est tous appelés à renoncer, à combattre la cruauté envers les animaux. Et ce, au nom de l'Évangile. Pourquoi? Parce que Dieu les a créés et Dieu les a bénis. Et c'est même possible aujourd'hui d'acheter de la viande pour ceux qui ne sont pas végétariens. Donc, Sarah, tu peux bloquer tes oreilles. Non, je blague. Ce n'est pas une végétarienne fanatique encore. Heureusement pour nous. Hein? Végétalienne, oui.
Non, végétarienne.
Végétarienne. OK.
Pas végétalienne.
Oui.
Josué vegan.
Oui, c'est ça. Il y a deux niveaux, hein?
C'est ça.
Josué. Josué Blanchet, qui a quel âge maintenant? A décidé de devenir végétalien. Ça veut dire il mange même pas les produits des animaux vivants, comme le lait, le fromage. Bon, c'est juste pour que vous connaissiez la définition du mot végétalien, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Mais même moi qui achète de la viande et qui la mange, Dieu m'appelle à dire non à la cruauté envers les animaux. Une chose que j'ai fait récemment, je suis allé dans une boucherie que je connais, que j'aime bien. J'ai acheté de la viande produite non seulement bio, mais free range, j'oublie comment dire ça en français. Oui, ce sont des poules que les fermiers garantissent que les poules ont vécu une vie saine. Oui, on les a tuées pour les... Mais ils ne sont pas élevés dans des situations de cruauté. Ça coûte plus cher, par contre. Alors, mais c'est quelque chose qui est possible. Sinon, un point d'application plus facile que je vous donne aujourd'hui, et ça, j'invite tout le monde à le faire. Premièrement, remercie Dieu cette semaine pour un animal vivant dont tu croises le chemin cette semaine. Oui, il y en a, c'est déjà dans votre salon. Il y a un chien qui vous attend et qui va vous accueillir. Remerciez Dieu pour un pigeon, pour un chien, pour un chat. Dieu l'a créé. Et deuxièmement, pour un animal qui te nourrit, peut-être il y a de la viande dans ton assiette ce soir, quand tu vas remercier Dieu pour ton repas, remercie Dieu pour la vie de cet animal dont tu vas manger la chair. Ayons une vision globale de l'amour de Dieu pour la création qu'il transmet ici. Troisième point, Dieu va préciser le focus à Noé et à ses fils et ses belles-filles, le focus par rapport à l'humain. Alors, moi, j'enseigne des cours à l'ETHEC, et parfois, quand je donne un devoir à faire dans mon cours, des fois, ça m'arrive, je suis très déçu par le résultat, parce que les étudiants n'ont pas vraiment compris le vrai focus du travail, le vrai but. Ils répondent à côté de ce que je veux. Donc, dans un cas comme ça, ce que je fais pour la prochaine fois, c'est que je vais mettre plus de précision dans l'énoncé du devoir sur le focus visé, sur le but à atteindre. Je donne des précisions sur ce que je veux, puis aussi des détails sur ce que je ne veux pas. Des précisions sur ce qui est prioritaire, puis des précisions sur ce qui est moins important. Autrement dit, je clarifie les limites pour qu'ils aient plus d'aide pour viser juste dans leur travail. Et ici aussi, Dieu précise le focus. suite au fiasco qui est arrivé avant le déluge. Le fiasco humain qui était une, on a vu, c'est une spirale de violence, de vengeance, d'endurcissement de la conscience. Dieu précise les choses pour le nouveau départ. Et penchons-nous sur le verset 6 qui est devant vous. Lorsque quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Ici, il n'est pas question de vengeance, mais plutôt d'exercer la justice. Et oui, il est question de la peine capitale ici. On va en parler. En fait, ce que Dieu est en train de faire, c'est préciser le devoir, les limites pour diminuer la violence, pour diminuer le meurtre. On peut dire ici que Dieu dit que chaque humain a une valeur ultime pour moi. Chaque humain a été créé à mon image et donc a une valeur ultime pour moi. Et donc, un meurtre commis d'un humain, je le prends personnel, OK? C'est mon image, c'est comme je prends l'exemple de Viviane parce que je la vois. Viviane est image de Dieu. Ça veut dire elle est sculpture de l'Éternel, insufflée de vie qui se promène sur la terre. Ça veut dire que si quelqu'un fait du mal à Viviane, c'est une offense à l'image de Dieu. C'est donc une offense à Dieu lui-même. Et il le prend personnel. OK? Suivez-moi. Donc, quand je dis que Dieu précise le focus, il semble y avoir un assouplissement par rapport aux animaux. La permission de manger les animaux, elle n'était pas là avant. Dieu la met en place suite au grand fiasco et au nouveau départ. Mais c'est à l'intérieur de certaines limites. On se comprend. Cruauté, non. Et finalement, apparemment, Dieu demande à l'être humain qui est image de Dieu, non seulement qu'il va protéger toi en tant qu'image de Dieu, il va te valoriser au plus haut point, mais la société humaine comme image de Dieu va gérer elle-même la justice. Et Dieu parle ici de la peine de mort. La peine de mort pour le meurtre prémédité qui a existé dans l'humanité et qui existe encore dans un grand nombre de pays jusqu'à aujourd'hui. Alors, la peine de mort pour le meurtre prémédité d'un humain a existé au Canada, mais a été abolie en 1976. Puis, en faisant un peu de recherche, j'ai vu que sous le gouvernement Mulroney, donc au milieu des années 80, il y a quelqu'un qui a relancé un projet de loi pour ramener la peine de mort, et ça a été défait. Ça a été défait, mais de justesse. Donc, ça ne fait pas longtemps que le Canada a aboli la peine de mort. Et à la lumière de l'Évangile, à mon avis, je crois que c'est une bonne chose que cela a été aboli. Premièrement, il y a, à cause, encore une fois, des limites de l'être humain et aussi du cœur méchant de l'être humain, il y a des erreurs qui se sont faites, il y a des abus qui se sont faits avec la peine de mort. Et je dirais aussi, du point de vue de l'Évangile, ça donne plus de temps pour les aumôniers d'amener les condamnés de meurtre à venir à la repentance, à leur parler du salut. À l'automne, on a eu la visite d'un prisonnier, et en fait, j'ai aucune idée c'était quoi le crime qu'il a commis, notre frère Asmik, qui est venu à Christ en prison, après avoir été reconnu coupable, et lui-même a reconnu sa culpabilité pour un crime Et un aumônier lui a expliqué l'Évangile. Il est non seulement devenu un chrétien, mais un propagateur de la foi chrétienne dans le quartier ici. Donc, je crois que même un meurtrier peut venir à Christ et servir Christ. Après tout, l'apôtre Paul était lui-même un meurtrier et devenu le plus grand des missionnaires. Mais je me demande si autrefois, je me demande si les condamnés à mort dans le vieux temps n'étaient pas avantagés pour mieux comprendre avec plus de clarté le sérieux de l'Évangile lorsqu'ils étaient seul à seul avec leur aumônier, car ils étaient obligés de faire face plus rapidement, de manière plus dramatique, à la gravité de leur faute. Et au fait qu'ils devaient agir d'une manière plus urgente pour se repentir. Je me pose cette question. En tout cas, ce qui est grave dans notre société moderne ou postmoderne, c'est qu'on a une amnésie spirituelle par rapport à notre vraie identité. Nous sommes l'image de Dieu. Nous avons été créés spéciales par Dieu avec une dignité spéciale et des responsabilités spéciales. Nous sommes l'image de Dieu sur la terre et l'homme moderne a refusé de se voir comme image de Dieu sur la terre. De plus en plus, nos contemporains insistent sur le fait que nous ne sommes que des animaux parmi les animaux. Ou pire encore, il y a une nouvelle pensée qui dit, mais au fond, quand on se compare avec une machine, on est une machine. On est comme un ordinateur, comme un robot très complexe, mais on est une machine très performante. Un jour, les robots vont nous rattraper. Et c'est une grave erreur à la lumière de la parole de Dieu. Vous me suivez? Donc, dans les débats que nous, les croyants, on a perdu ces débats-là sur la scène publique, des débats concernant, par exemple, l'avortement, concernant, par exemple, l'assistance médicale à mourir. L'élément qu'on n'a plus le droit de dire, mais qu'il faut continuer à dire, l'être humain est image de Dieu. L'être humain, toi, tu as une valeur ultime aux yeux de Dieu, parce que tu as été créé à son image. Même si tu as commis des fautes graves, même si tu es marginal, même si tu es défavorisé dans la société, même si tu es handicapé, même si tu es défiguré par un accident, tu demeures image de Dieu et tu as une valeur ultime aux yeux de ton Créateur. Application pratique. Revenons à du positif, parce que Dieu t'aime, Dieu aime aussi la personne qui est assise à côté de toi. C'est peut-être plus facile de se dire, mais moi j'accepte que Dieu me voit comme son image et me valorise et m'aime d'une manière infinie. C'est plus facile des fois de dire que la personne marginale, la personne dérangeante de l'autre côté de la ville ou qui est plus proche de moi est aussi image de Dieu et a cette même dignité. Et voilà pourquoi Martin Luther, le réformateur, le grand théologien du 16e siècle, il a écrit un catéchisme et une section, il explique les 10 commandements. Alors, le 5e commandement dans les 10 commandements, c'est « tu ne tueras point ». Et dans son catéchisme, voici comment il explique ce point, et je crois qu'on peut le mettre en pratique. Il dit que ça veut dire que « tu ne tueras point », veut dire que nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point porter atteinte à la vie ou à la santé de notre prochain, mais de le secourir dans le péril et dans le besoin. Hein, donc, là, on s'éloigne pas mal loin du meurtre ici. Si tu saisis les occasions pour aider la personne sans défense, la personne sans ressources qui est dans le besoin ou qui est en danger, eh bien, tu t'en vas dans la direction opposée du meurtre et Dieu aime ça. Alors, pensez-y. Peut-être cette semaine, tu peux vraiment aider quelqu'un qui en a besoin, peut-être quelqu'un qui n'a pas une voix, quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui est sans pouvoir, ou peut-être juste ton voisin d'en face qui a besoin d'un peu d'aide avec quelque chose. Mon dernier point que j'ai remarqué ici, Dieu donne un indice du salut qui vient. Donc, on a vu à plusieurs reprises dans Genèse, Dieu vient vers l'homme, mais il donne toujours un indice d'un salut plus grand qui s'en vient plus tard. Un salut qui a un impact présent, futur, mais aussi rétroactif. Rétroactif même sur les temps des origines. Quand Dieu dit ici, au verset 4, « La vie de l'animal est dans le sang. Tu ne mangeras pas le sang. » C'est une prescription que les Juifs ont gardée jusqu'à aujourd'hui. Donc, le cache-route, c'est-à-dire la nourriture cachère, c'est très important, c'est l'élément le plus important. Il faut que le sang de l'animal soit enlevé avant qu'il mange le sang. Nous, les chrétiens, parce qu'on voit l'accomplissement de cette parole dans le sacrifice de Christ, on est moins pointilleux là-dessus. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que Dieu donne à Noé une nouvelle compréhension des sacrifices des animaux, qui ont toujours existé dans les sociétés antiques. Et même aujourd'hui, les sacrifices, les hommes ont toujours aimé sacrifier aux divinités. Et dans beaucoup de sociétés anciennes, on se disait, mais c'est un cadeau que je vais faire à Dieu. Je vais prendre une de mes poules, je vais prendre un de mes cochons, je vais prendre une de mes vaches, je vais la donner en nourriture à Dieu. Et ça va nourrir sa faim. Mais le Dieu de la Bible dit, moi, je n'ai pas besoin de cadeaux, je n'ai pas besoin de nourriture. C'est le sang de l'animal qui m'intéresse, le sang qui symbolise sa vie. Et là, il institue quelque chose que les Juifs ont dû commencer à comprendre. C'est que vie pour vie, le sacrifice, c'est ce qu'on appelle, alors tenez-vous bien, des mots un peu techniques, c'est une expiation substitutive, OK? Une expiation substitutive. Je vois un frère là-bas qui il dit, oui, c'est des mots que je connais. Alléluia! Qu'est-ce que ça veut dire? Expiation, ça veut dire tu dois payer pour ta faute. Hein, c'est un peu comme tu te fais pogner parce que tu as mal stationné ta voiture. Tu expies en payant ta contravention. Et avec le péché, c'est à Dieu qu'on paye l'expiation. Substitutive, c'est substitution. C'est simple, c'est tu remplaces. Hein? Ceux qui ont regardé le match des Canadiens hier, il y a des substituts. Il y a un gars qui sort, un autre qui rentre à sa place. Non, personne ne regarde les Canadiens. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, OK. Go Toronto! Go. Non, non, non. Alors, expiation substitutive, c'est cette idée assez choquante presque. Un animal, par sa vie, prend ta place dans le sacrifice. Autrement dit, c'est toi qui devrais passer, mais c'est l'animal qui passe à ta place. Une terrible chose, mais tout ça, c'est symbolique. C'est pour préparer la compréhension de ce que Dieu amenait, c'est-à-dire Jésus-Christ. Hein? Qu'est-ce qu'on a célébré, ou plutôt commémoré le Vendredi Saint? La vie de Jésus à la place de ta vie. Jésus donne son sang, Jésus donne sa vie, Jésus qui est Dieu, il donne, pourquoi? Pour que toi, tu sois expié, ta faute, que tu puisses avoir la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Et cette vie nouvelle dont on est en train de parler, il est temps de conclure. Ouais, j'ai pas mal couvert tout ça. Ce matin, je voulais juste t'inviter à placer ta confiance dans ce Dieu qui veut rénover ta vie, qui veut rebâtir ta vie avec toi sur des bases meilleures, dès aujourd'hui, en Jésus-Christ. Ouvre-lui la porte. On a vu, Dieu, c'est le Dieu des nouveaux départs, valorise les animaux, il précise le focus et il donne l'indice que Jésus s'en vient. Ouvre-lui la porte. Regarde à Jésus-Christ. Vous savez, je ne sais pas, j'ai lu quelque part cette semaine quelque chose de vraiment frappant. Avec le déluge, tout est changé. Tout est détruit. Il y a une chose qui ne change pas, c'est le cœur humain. Hein? Noé, ses fils, ses belles-filles, sa femme, leur cœur n'a pas changé, qui fait qu'il y a une nouvelle création, mais les mêmes problèmes recommencent. Dans la nouvelle alliance avec Jésus, rien ne change. Quand tu viens à Jésus, rien ne change, sauf que Jésus te donne un cœur nouveau. Mais c'est le plus important. C'est ça le plus important. Mais as-tu un cœur nouveau? Est-ce que Jésus t'a donné un cœur nouveau? Il t'a donné un cœur nouveau. Est-ce que Jésus a changé ton cœur? Si Jésus n'a pas changé ton cœur, tout ceci ne sert à rien. Mais on voit des vies transformées. On a entendu les témoignages de tantôt, de Troy, de Laurie Lee. Dieu peut changer ton cœur. Rien d'autre ne change. On reste humain. On garde les mêmes parents. On garde la même job. Mais quelque chose de nouveau est planté en toi. Jésus-Christ te donne ce cœur nouveau. Comme nous avons lu, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous invite à prier. Puis si quelqu'un aimerait soit donner sa vie à Jésus-Christ pour la première fois, lui demander le cœur nouveau, ou peut-être tu es un chrétien de longue date, mais tu veux que Jésus renouvelle ton cœur nouveau, bien, je t'invite à te lever. Personne ne va te juger. Personne ne va te pointer du doigt. Je t'invite à te lever et à prier avec moi. Jésus, toi qui es le Fils de Dieu envoyé pour nous rénover, toi qui es la manifestation de l'amour de Dieu pour moi. Je viens à toi ce matin. Seigneur, je ne comprends pas tout. Aide-moi à comprendre ce que tu as à me donner ce matin. Donne-le-moi. Seigneur, je vois, je réalise que mon cœur n'est pas ce qu'il doit être. Je réalise que j'ai besoin d'une transformation. Seigneur Jésus, viens en moi. Pardonne-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Amen.